Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast France Télévisions, où je vous rappelle que tous les jours on met en ligne le moment fort et phare de l'émission, l'entretien entre Agathe Le Caron et son invité et ses invités, et puis ensuite les analyses de l'expert, du spécialiste qui vient pour nous donner justement des bons conseils. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est terriblement d'actualité, la situation en Ukraine et en particulier des parents qui ont eu recours à une mère porteuse en Ukraine dans les conditions que l'on connaît. Et imaginez l'angoisse de ces dernières semaines, de ces derniers mois et surtout la difficulté pour aller récupérer pour ces familles leurs enfants. Donc on va entendre un témoignage de Manuela et de Loïc qui ont accepté de venir raconter cette période terrible qu'ils ont vécu, et puis la situation qui aujourd'hui s'est largement améliorée et apaisée pour eux, et on s'en réjouit. Donc on écoute Manuela et Loïc, et puis nous serons avec un expert juste après pour analyser tout ça. C'est parti.
Vous le savez, mais l'Ukraine fait partie des 9 pays européens qui autorisent la gestation pour autrui, c'est-à-dire la GPA. Mais évidemment, depuis le début du conflit, il y a des couples français qui ont dû braver la guerre pour aller chercher leur enfant. Il y en a aussi certains qui n'ont pas réussi. Manuela, bonjour.
Bonjour
Agathe.
Merci
d'être avec nous. Quelle histoire vous venez nous raconter. Votre fille tellement mignonne qui est dans vos bras, qui s'appelle Mila, est née à Kiev le 3 mars. C'était une semaine après le début de la guerre. Elle n'avait que 20 heures quand vous avez réussi à quitter la capitale ukrainienne avec Loïc, qui est votre conjoint, qui est dans les coulisses. Alors votre combat pour devenir mère, qu'on comprenne un petit peu ce qui vous a mené à Kiev, a été très très long, très douloureux, parce que ça a duré 17 ans. 17 ans de PMA, de doute, 17 ans d'espoir, de découragement. Donc à 40 ans, vous étiez totalement, et on vous le comprend, épuisé, moralement, physiquement aussi, mais toujours déterminé à devenir parent. Donc vous êtes tourné vers la GPA. Pourquoi ce parcours en Ukraine ?
Alors en fait, j'avais connaissance dans mon esprit que la GPA était autorisée aux États-Unis, mais clairement pas possible pour notre couple, pour des raisons financières. Mmh. Et mon mari a découvert que c'était possible de le faire en Ukraine, sous condition d'être marié, d'être un couple hétérosexuel et d'avoir un certificat médical par lequel on a un réel problème de santé qui nous empêche de poursuivre des démarches en France.
Voilà, donc ça restait élevé comme coût, il faut dire que ce n'est pas donné non plus, mais pour vous, c'était un petit peu plus envisageable.
Exactement, on a fait pendant quelques années, 2 à 3 boulots chacun pour pouvoir y arriver, mais en tout cas, on était content de pouvoir avoir accès en fait, à cette possibilité qui pour moi était de toute façon la seule possibilité d'être maman.
Alors, vous êtes lancée dans cette aventure en août 2020. Le 29 juin 2021, donc ça allait quand même assez vite, le test de Natalia, test de grossesse, votre mère porteuse, est positif. Comment est-ce que vous avez vécu cette grossesse à distance? Est-ce que vous avez pu tisser des liens avec Natalia?
Alors, le premier contact avec Natalia a été le jour de l'échographie pour la détermination de la grossesse, pour s'assurer que voilà, l'œuf avait bien pris. Donc, je me souviens, c'était un 14 juillet et ça a été la première fois où on a pu l'avoir en visio. Donc on a discuté avec elle. Effectivement, les premiers messages étaient plutôt sommaires. On ne se connaissait pas. Mmh. On appréhendait
ça. Reconnaître,
mais bien sûr,
quoi.
Exactement. Et puis au fur et à mesure du temps, on a tissé des liens de plus en plus importants où on s'échangeait via un groupe WhatsApp. Alors c'est là où Google est votre meilleur ami parce que en fait le copier-coller marche très bien. Et en fait on communiquait comme ça. Alors au début c'était
copier-coller, c'est-à-dire que vous faisiez des traductions.
Oui, j'écrivais en français, Google me traduisait en ukrainien et je copiais en fait l'ukrainien que je lui mettais dans le groupe WhatsApp pour lui faciliter les choses. Ouais. J'ai juste appris qu'il fallait parler très sommairement, c'est-à-dire pas donner de petits mots jargon parce que la traduction ne se faisait pas. Mais sinon, c'était très, très simple.
Donc, au départ, vous êtes allée à Kiev aussi, vous êtes allée la rencontrer.
On est allée le 1er novembre pour assister à une échographie du deuxième trimestre. C'est là où on s'est rencontrés physiquement et l'émotion était assez importante. On s'est tout de suite serré dans les bras. On a échangé des larmes parce que, en fait, je pense qu'on avait toutes les deux hâte de se rencontrer. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a décuplé complètement les messages. Ouais. On était beaucoup plus à se dévoiler On a échangé nos sapins de Noël. Parfois, on faisait des plats typiques. On les prenait en photo, on se les envoyait.
Donc il y a un lien déjà très, très fort.
Hein. Oui, complètement.
Alors, l'accouchement était prévu le 3 mars. Donc, vous avez décidé de vous rendre à Kiev avec Loïc, votre conjoint, dès le 19 février. Donc, bien avant, au cas où, évidemment, Natalia accoucherait un petit peu avant. C'était quoi l'ambiance à Kiev à ce moment-là?
C'était magnifique. En fait, Kiev était une ville en mouvance. Je me souviens, la veille au soir du conflit, on était dans les bureaux de Tatiana, notre coordinatrice ukrainienne, en lui disant « j'adore cette ville qui bouge ». On avait été manger au restaurant. Aucun Ukrainien ne se doutait vraiment que la guerre allait éclater. Et donc, en fait, on était vraiment dans une ville comme n'importe quelle capitale de ce monde.
Alors, dans la nuit du 23 au 24 février, vous entendez une première explosion. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là?
La première explosion, j'ai pensé que c'était juste une explosion. C'est lorsqu'il y a eu 15 minutes après une deuxième explosion où je me suis dit, c'est un peu surprenant. J'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai vu, j'avais un message de Tatiana avec un émoticône qui pleure et elle me dit, Poutine a déclaré la guerre. Et Loïc dormait, en fait, à ce moment-là, je l'ai réveillé vite fait parce que Tatiana nous a dit « prenez quelques affaires et descendez vite dans le métro ». Donc, chose qu'on a faite très rapidement.
Déjà, vous entrez quand même, il faut le dire, dans un autre monde. Parce que quand on est français, on ne peut pas imaginer, enfin d'ailleurs, je dirais les Ukrainiens non plus ne pouvaient pas l'imaginer, mais tout à coup, aller se réfugier dans le métro, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, surtout quand la veille, au soir, on dîne tranquillement dans un restaurant. Natalia, elle était en sécurité, vous avez eu des nouvelles à ce moment-là ou
Alors
pas
Natalia, à cette époque, était à Irpin, et on sait ce qui est devenu Irpin, sauf par chance, le 23 février, c'était l'anniversaire de son mari.
D'accord.
Donc en fait, il l'avait rejoint à Irpin et ses deux filles de 14 et 16 ans pour fêter une soirée d'anniversaire, comme tout ce qu'on peut faire en famille. Et il était resté dormir avec Natalia dans son appartement la veille du conflit, en fait dans la nuit du conflit.
D'accord.
Donc la guerre a éclaté et vu qu'il était là, il a pu la mobiliser vers un appartement qui se trouvait juste à côté de la maternité de Kiev numéro 3 pour qu'elle puisse être plus près de la maternité et être plus en sécurité, par chance. Parce qu'aujourd'hui, quand on sait ce qu'Irpin est devenu, franchement, on a vraiment eu beaucoup de chance.
Comment vous avez vécu sous les bombes jusqu'à l'accouchement de Natalia?
Alors,
c'était quoi votre quotidien?
Au quotidien, alors, par chance, le jour du conflit, étant donné qu'on a rejoint Tatiana dans le métro, il y avait un autre couple de Français, Laura et Julien, qui, eux, étaient arrivés sur les derniers vols la veille au soir, à Kiev, et eux n'avaient pas d'appartement, ils étaient arrivés plus tôt pour la naissance.
Aussi pour la naissance de
Exactement,
leur enfant.
Exactement,
d'accord.
Tout à fait. Donc, qui fait que c'était un jeune couple de Français, et on leur a dit, écoutez, venez avec nous dans notre appartement, il y a suffisamment pour qu'on puisse rester à quatre, et on a été tous les quatre très soudés pendant une semaine, mm-hmm. où là, le quotidien, c'était le soir, les premières nuits, on a dormi par terre dans la cuisine, et puis, parce qu'on essayait d'être écarté un maximum des fenêtres. Et les nuits suivantes, on a eu vraiment la chance de tomber sur des voisins ukrainiens, mais d'une gentillesse, qui nous ont expliqué qu'il y avait un bunker sous notre immeuble. Et donc, tous les soirs, ils nous ont demandé à les rejoindre dans le bunker. Au fur et à mesure des nuits, par contre, il y avait de moins en moins d'Ukrainiens. Là, on commençait à avoir peur parce que ça voulait dire qu'ils partaient. Et nous, on ne partait pas parce que nos enfants n'étaient pas nés. Donc, la chance, on a rencontré une mamie avec laquelle on a dormi qui avait ronflé toute la nuit et qui, pour se faire pardonner, nous a fait un plat typiquement ukrainien, un borscht. Et en fait, voilà, ils sont tellement résilients, bienveillants et gentils.
C'est inoubliable, hein,
ouais,
ces moments-là.
Notre seul regret, c'est d'être partis, on l'expliquera juste après, comme des voleurs et qu'on n'a pas pu juste leur dire au revoir.
Une semaine calfeutrée donc, dans cet appartement, et puis c'est le jour de l'accouchement, donc vous rejoignez Natalia à la maternité. Vous étiez dans quel état d'esprit? Je n'ose même pas imaginer le nombre d'émotions qui devaient s'entrechoquer en vous, entre la peur, le bonheur de se dire que vous allez rencontrer votre bébé.
Alors en fait, déjà, j'avais tellement hâte de la voir parce que je ne l'avais pas vue. J'avais refait un aller-retour fin janvier et je ne l'avais pas vue depuis un petit mois. Mm-hmm. Et j'avais vraiment hâte de la voir, de la serrer dans mes bras et être sûre qu'elle va bien. Et donc, il a fallu faire le chemin entre l'appartement où on était à Podil jusqu'à la maternité numéro 3, où là, 40 minutes de trajet, hyper angoissant. Ouais. Ouais. C'est Tatiana qui nous y a emmenés, mais on était très exposés, même s'il n'y avait personne dans les rues. Les seules personnes qu'on côtoyait, c'était des militaires avec des kalachnikovs. Il y avait des checkpoints toutes les 5 minutes. Mmh. On était contrôlés, il fallait montrer nos papiers. J'en avais même des spasmes de vomissement, tellement le stress était important. C'était affreux. Je pense que ça a été le trajet le plus horrible de ma vie, jusqu'à l'arrivée à la maternité, où là, on nous a encore demandé des papiers. Parce qu'en fait, tous les Ukrainiens se méfient des infiltrés russes. Donc, tout le monde est suspect. Donc, il fallait toujours montrer son passeport.
Vous avez quand même pu assister à l'accouchement ?
Oui. Oui, alors là, voilà, le bonheur, c'est quand je suis arrivée en salle d'accouchement, Natalia était là, avait des contractions toutes les 3 minutes, qui duraient 30 secondes, je les ai contrôlées pour voilà, savoir un petit peu d'où elle en était. Une fois que la péridurale a été posée, pour elle, ça a été plus sympathique, j'imagine. Et par contre, je lui ai toujours tenu la main, de 8h le matin jusqu'à 12h49, que Mila est née à ce moment-là. Donc il y a eu un bombardement avant qu'elle naisse, un bombardement après qu'elle naisse, mais les bombardements n'étaient pas si intenses que ça, qui fait qu'on a pu, par chance, rester dans le bloc accouchement. On n'a pas eu besoin de descendre dans le sous-sol, bunker, pour qu'elle puisse aller accoucher.
Et vous avez pu faire le pot à pot, les premiers moments avec elle.
Oui, j'ai surtout pu couper le cordon ombilical. Là, on a eu un médecin qui était formidable, qui est Sergueï, qui lui était un médecin paparazzi, qui nous a pris 10 000 photos filmées, plein de plans, et il nous a donné la possibilité de couper le cordon ombilical. Et ça, ça a été formidable.
Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais racontez-nous comment vous avez pu rentrer en France, parce que ça a été une épopée incroyable. Là, vous êtes tout de suite dit, maintenant, il faut rentrer.
On est parti de la maternité, Mila avait 20 heures. On est arrivé à notre appartement, on n'avait même pas 15 minutes pour se préparer. On a pris toutes nos affaires, enfin, en tout cas le maximum qu'on pouvait. On a été au lieu de rassemblement. Et ensuite, c'est là où il y a eu 3 jours de voyage, où on a été dans un convoi qui était organisé par l'ambassade. Et clairement, on a remonté des files de voitures en sens inverse, plus de 300 km de bouchons, parce qu'on avait des deadlines, absolument, parce qu'on avait d'autres bus qui nous attendaient à d'autres endroits. Donc, en fait, ça a été 36 heures de bus, dont le premier créneau a été de 13h20 parti de Kiev et arrivé à 3h du matin à Ternopil. Par chance, on a pu emmener avec nous Natalia, parce qu'on passait juste à côté de son village, donc on a pu la déposer.
Pu la déposer.
Exactement, ah, elle habitait en périphérie de Ouman, donc son mari est venu la chercher avec ses deux filles, il nous a ramené un tas de cadeaux pour nous remercier d'avoir mis à l'abri sa femme. Et ensuite, on a dormi dans des camps de réfugiés, dans des salles de classe, pour ensuite attendre un autre bus qui nous emmenait d'un point A à un point B. Donc ça a été très compliqué. Les filles, parce qu'on était avec les autres couples qui avaient leur bébé, donc les deux filles, en fait, ont été super cool. Elles se sont mises en mode avion, pratiquement.
Elles n'ont pas pleuré une seconde.
Non, elles n'ont rien demandé. Elles se sont dit que ce n'était pas le moment. Et en fait, ça a été pour nous formidable. On avait la chance d'avoir un couffin qui fait qu'elles étaient tout le temps protégées. Mais on a vraiment vécu des moments qui ont été compliqués dans cette évacuation.
Qu'on n'ose même pas imaginer. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans parler d'un gros problème que vous rencontrez aujourd'hui. C'est comme vous êtes partie de Kiev ultra rapidement, vous êtes partie sans papier. Et donc aujourd'hui, c'est un véritable combat administratif qui démarre pour vous, pour faire reconnaître Mila comme votre fille.
Tout à fait. En fait, on est parti avec le papier qu'il manque, c'est-à-dire l'acte de naissance ukrainien qu'on obtient auprès des registres civils. Sauf que dans un pays en guerre, dans une ville complètement assiégée, on ne peut pas avoir de registre civil d'ouvert, donc pas d'acte de naissance. Aujourd'hui, l'ambassade nous a dit qu'en revenant en France, on allait avoir des procédures allégées. Il n'en est pas du tout le cas. Et donc, il s'avère que c'est très, très compliqué. On ne peut pas, hormis saisir la justice, mais avec des délais qui vont être longs et fastidieux. Nous étions encore hier au consulat ukrainien. On est tombé sur le consul qui nous a dit que lui ne pouvait rien faire non plus, hormis envoyer un mail au secrétaire d'État chargé de l'enfance. Et nous a clairement dit qu'il fallait qu'on retourne dans un pays en guerre chercher notre acte de naissance.
Bonjour docteur Anne Sénéquier, merci Bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, chercheur à l'IRIS, ça c'est un des principaux think tanks français qui est spécialisé sur les questions géopolitiques et stratégiques. Vous êtes co-auteur du livre « La géopolitique tout simplement » aux éditions Erol. Manuela parlait du silence de son bébé, elle disait les filles se sont mises en mode avion, comme si elles comprenaient ces petits bébés, ce qui se jouait à ce moment-là.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ça chez un si petit bébé qui a 20 heures,
c'est pas 20 jours. Mais c'est justement un tout petit bébé. Et c'est vrai que les tout petits bébés, finalement, quand ils vont bien, quand ils n'ont pas de colite du nourrisson, quand ils n'ont pas faim, pas froid, ben finalement, ils dorment. Parce qu'un nouveau-né, ça dort vraiment la quasi-totalité de la journée. Donc, ça n'est pas inquiétant dans l'absolu. Et puis, si on a des parents qui sont à même d'apporter les soins attendus par le nouveau-né, ben finalement, l'enfant n'a pas besoin de pleurer. Parce qu'en fait, le pleur, c'est son moyen de communication. On sait, regarde-moi, donne-moi à manger, j'ai froid, j'ai mal. Si tout va bien, finalement, il n'y a pas forcément besoin de pleurer. Par contre, ce à quoi il faut être attentif, c'est les autres signes de communication, c'est le regard. Alors, c'est très furtif lors de la première journée, mais le regard, le toucher,
oui, si on a un bébé contracté, peut-être. Ouais.
Voilà, donc c'est vraiment ces petits symptômes-là, ces petits signes plutôt d'anxiété, de douleur, de mal-confort qu'on va essayer de rechercher.
Ouais,
et si l'enfant, finalement, on voit qu'il n'est pas du tout dans sa bulle, mais qu'il est plutôt bien, finalement, ça n'est pas inquiétant.
D'accord. Naître sous les bombes, c'est une situation qu'on a oubliée, nous, en France, ça fait quand même un certain nombre d'années. Pour ces parents qui sont concernés, eux, à nouveau, Antoine vous demande quelle trace la guerre peut-elle laisser sur un nouveau-né et comment peut-on les effacer ?
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs impacts qu'on peut retrouver chez les enfants qui sont nés dans une guerre, une catastrophe naturelle aussi finalement. Et il va y avoir deux choses différentes. Un, l'état de la mère pendant la fin de la grossesse ou si la guerre s'est perdurée pendant toute la grossesse. Et c'est vrai que cet impact, ce stress, alors il y a le stress normal d'une grossesse qui n'est pas impactant pour l'enfant, mais c'est vrai qu'on a fait par exemple des études après 9/11 à New York où les mères qui étaient près de Ground Zero au moment des attentats finalement ont eu des grossesses avec de la prématurité, avec des retards de croissance unitéro. Donc il y a un réel impact au niveau physiologique sur ces fins de grossesse. Et ensuite au niveau psychologique, en fait, là, c'est vrai qu'il peut y avoir des petits moments de stress, mais rien n'est définitif pour l'enfant et tout va dépendre de comment la mère ou le donneur de soins, parce que ce n'est pas toujours la mère, qui va être présente autour de l'enfant après sa naissance, c'est-à-dire, encore une fois, d'être un parent ou d'être un donneur de soins suffisamment bon, c'est-à-dire de pouvoir répondre aux attentes de l'enfant, que ce soit le portage, que ce soit effectivement répondre, encore une fois, à la nourriture, la température, le bien-être.
Donc finalement. Là, Mila qui est arrivée dans une petite bulle ici en France, on peut être optimiste.
Oui, et puis elle a un parcours particulier. Cette enfant, ça fait quasiment 2 décennies qu'elle l'attend. Ouais. Je pense qu'il y a quand même eu le traumatisme de l'accueil de cet enfant qui devait être juste un moment de joie qui s'est transformé en une aventure guerrière, un véritable cauchemar. Donc le stress est là, mais j'ai très confiance en leur capacité à générer l'environnement qu'il faut pour que Mila aille très bien.
Clémence vous dit, victime de violences obstétricales, comment accepter que ce qui devait être le plus beau jour de ma vie, celui de la rencontre avec mon bébé, soit aussi le jour le plus traumatisant ? On parle d'autres formes de traumatisme.
Alors accepter, je ne sais pas si on peut parler d'acceptation, mais je pense que c'est important, c'est de faire deux histoires. Il y a l'histoire de la parentalité qui s'est construite bien avant de la conception de l'enfant, qui s'inscrit dans l'histoire du couple et qui va continuer à travers l'accouchement, mais aussi par la suite, et c'est cet enfant qui va prendre sa place. Et à côté, il y a effectivement cette histoire de violence obstétricale. Et ce qui se passe, en fait, c'est comme si on avait mis 2 feuilles l'une sur l'autre avec des dessins différents et qu'on avait versé de l'eau dessus et que finalement, l'un s'était copié sur l'autre. Donc on a ce décalcomanie qui s'est imprimée. Et tout le challenge aujourd'hui va être justement de décoller les 2 feuillets et de garder le côté de l'histoire de la violence obstétricale sur le côté juridique, sur le côté qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ça, l'associatif et ainsi de suite. Et à côté, pouvoir investir cette parentalité et ce nouvel enfant pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce désir qu'on a conceptualisé bien avant et amené vers la suite.
Olivia vous demande, lorsqu'une femme enceinte est confrontée à un événement traumatisant, alors elle donne l'exemple de guerre, de catastrophe naturelle, d'accident de voiture aussi, le fœtus est-il forcément impacté ?
Forcément non, parce qu'on est en médecine et le risque zéro, ou comme le risque 100% plutôt, n'existe pas. Donc par contre, on a effectivement un risque de développement de retard de croissance unitéro, d'accouchement prématuré, à travers justement les hormones de stress qui sont générées par la maman et qui vont passer la barrière placentaire. Après, au niveau psychologique, il peut y avoir un impact, effectivement, mais rien qui n'est définitif. Et justement, tout le challenge va être pour la maman, après l'accouchement, d'être une mère suffisamment bonne, c'est-à-dire d'être attentive et d'être présente pour les demandes de son enfant.
Alors Capucine vous dit, faut-il faire suivre nécessairement un bébé qui a eu une telle entame de vie ? À quoi il faut être vigilant ?
Alors, le suivi n'est pas nécessairement obligatoire et en même temps, j'ai envie de dire, quand on a un bébé ou même si tout s'est bien passé, on va voir le pédiatre tous les mois dans la première année de vie. Donc, en fait, ce suivi est déjà assez proche pour un enfant qui va relativement bien, où il n'y a pas de signes. Et en fait, ce sont ces petits signes qu'il va falloir chercher, c'est-à-dire un enfant qui ne regarde pas son parent, qui ne cherche pas le contact visuel, qui ne sourit pas, qui ne pleure pas, qui ne demande rien finalement, ou qui peut même s'endormir dans des positions que l'on considérait comme inconfortable. On a un enfant qui vraiment se recroqueville sur lui-même au niveau psychologique aussi. Donc dans ces signes-là, oui, il faut aller demander de l'aide.
Édouard vous demande, que répondre à ma fille de 4 ans qui me demande pourquoi les hommes se font la guerre ?
Très bonne question.
Oui.
Eh bien, plusieurs approches, je dirais, parce que c'est la tradition, malheureusement, dans les relations internationales. La guerre a fait partie, justement, des us et des coutumes. Et aujourd'hui, on a difficulté à se séparer de ce qu'on appelle les traditions. Mais j'aurais une approche aussi plus psy, sur le côté, sur notre manière d'éduquer les enfants et dans l'éducation, la violence ordinaire, finalement. Quand, à un moment donné, en position de dominance, vous voulez faire voir votre point de vue, vous argumentez un petit peu quand ça ne marche pas, c'est la violence qui prend le pas.
On ramène ça à hauteur d'enfant ? C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on éduque les enfants dans le mode de la compétition. On dit qu'il faut être premier de la classe, il faut être premier au judo, il faut être premier à ceci, il ne faut pas être premier à cela. Et le fait est qu'aujourd'hui, cette notion de puissance et de volonté d'être le premier, c'est ce qui se retrouve aussi au niveau international et géopolitique. Et si on arrivait aujourd'hui à partir sur une éducation des enfants où on part plutôt de l'humilité, de la bienveillance et de la coopération, on serait sur une autre thématique. Et c'est vrai que les pays du Nord, les pays scandinaves qui ont cette approche de l'éducation, on le revoit aussi au niveau de leurs relations internationales. Ils ne sont pas du tout belligérants, ils sont plutôt pacifiques. Donc il y a deux approches à travailler là-dessus.
Il y a un outil qui est formidable d'ailleurs que vous proposez sur votre site, je voudrais qu'on en parle, parce que pour toutes ces questions-là que vous vous posez, allez sur observatoiresante.com. D'ailleurs, vous venez de poster un article sur comment parler de la guerre en Ukraine précisément aux enfants. Et là, pour le coup, ça va être très, très utile parce que je crois que tous les jours, il y a au moins un parent qui nous regarde, qui a droit à cette question. Moi, j'ai été très démunie quand ils m'ont posé la question, parce qu'en plus, on a quand même tendance, avec ces mouvances d'éducation positive, à beaucoup les protéger de ce genre de choses.
Victoire vous dit, entre les attaques terroristes, la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, j'ai peur que mes enfants de 6 et 8 ans développent des troubles de l'anxiété. Comment les aider à relativiser ?
Alors, déjà, on ne les met pas devant le journal télévisé.
Oui, c'est
très
la
important,
base.
Tout le monde sera bien d'accord là-dessus. C'est la base, mais c'est vrai que beaucoup, de plus en plus, et surtout après cette pandémie, les enfants ont de plus en plus accès aux écrans, que ce soit à partir du scolaire ou à travers d'être occupés parce que les parents télétravaillent. Donc, il faut vraiment filtrer tout cela. Et après, il faut être dans la réassurance et expliquer les choses. Alors, ça ne veut pas dire il se passe ça là-bas, c'est loin, ça ne nous impacte pas, mais pouvoir expliquer que ce n'est pas le seul à être inquiet, que si on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, il est acceptable de ne pas avoir de réponse et qu'on peut chercher ensemble et que les grands de ce monde essayent aussi de répondre à ces questions et de montrer. Alors oui, il y a la guerre, oui, il y a le terrorisme, mais il faut aussi mettre le focus sur toutes ces petites choses positives qui essayent justement de contrer ça, que ce soit les associations interreligieuses, que ce soit...
Les familles qui accueillent des Ukrainiens aujourd'hui.
Absolument.
En France.
Donc toute cette solidarité...
Ça résonne chez les enfants, la solidarité.
Exactement.
Ouais.
Toutes ces choses positives qui ne font pas la une des journaux télévisés ni des réseaux sociaux, mais qui sont là, qui sont présents. Et ces petites pépites-là, il faut justement les valoriser, leur montrer, regarde, tout ne va pas si mal. Et on peut nous-mêmes faire partie de ces choses positives-là.
Ah oui, ça, c'est encore mieux. Et c'est vrai que c'est pas mal de dire ce que je dis. Moi, j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont méchants, parce que mon fils me disait, mais Poutine, il est fou et tout, il va tout péter. Et je lui dis, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu fous, il y a des gens méchants. Mais il y a tellement plus de gens sympas et gentils, tu verras. Au moins que... Et c'est vrai, en plus, je crois que je leur mens pas. Moi, je crois qu'il y a quand même plus de gens sympas que de tarés.
Je pense qu'on peut dire à ce moment-là, c'est qu'effectivement, la Russie a cette attitude très 20e siècle, très belligérante, mais à côté, l'OTAN, l'Occident, a cette envie justement de ne pas y aller. Donc il faut aussi porter ça et de dire, regarde, on essaye de trouver une solution sans pour autant faire la guerre, donc il y a quand même des choses positives.
Et puis faire le distinguo, l'armée russe et les Russes.
Absolument.
Parce qu'il y a aussi, on en parlait avec Arnaud, vous avez une communauté russe importante.
Oui, importante.
Et donc il ne faudrait pas qu'il y ait un racisme contre les jeunes Russes.
Oui, c'est important.
C'est compliqué aussi. De...
D'autant plus que ça, c'est le terreau pour la guerre suivante, voilà. En fait. C'est et ce contexte d'humiliation.
L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui vient après la Première.
Oui, mais même cette guerre-là, Poutine, le méchant, justement, c'est aussi quelqu'un qui s'est senti rejeté,
humilié. Ça part toujours de l'orgueil et de l'humiliation.
Donc on a besoin de faire vraiment le distinguo entre la population russe et le gouvernement aujourd'hui pour ne pas créer justement ces braises qui pourraient couver quelques années et ressortir la prochaine décennie. Donc on a vraiment besoin de ça, effectivement.
Puis c'est vrai qu'à 8 ans, un enfant est capable de comprendre beaucoup de choses.
Oui,
il ne faut pas hésiter à échanger.
Oui, la théorie de l'esprit, à partir de 4-5 ans, en fait, l'enfant est capable de savoir qu'une personne n'est pas complètement mauvaise ou complètement gentille.
Oui,
et
c'est
que
ça.
Du coup, il y a plusieurs
rapports moins manichéens au monde.
On peut mettre des nuances à partir de 4-5 ans.
Oui. Donc, c'est compréhensible. Après, ça dépend un peu comment on leur apporte. Et puis, on peut leur dire, toi-même, de temps en temps, tu as des envies de faire des choses que tu considérais comme être méchant, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant. Donc, il faut aussi se baser sur ce qui lui parle et son environnement, les copains un peu plus agressifs à l'école, et ainsi de suite.
Merci beaucoup pour cette analyse et merci à Manuela et Loïc d'avoir accepté de venir nous voir. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, quand vous le souhaitez en podcast et le matin sur France 2 ou en replay sur France.tv. Bref, c'est difficile de nous rater quand même. Voilà. Allez, ciao tout le monde, bon week-end, salut.